absoute, enfin, que par l'évêque. Mais j'ai délégation. Donc, il faut que vous sachiez que c'est objet d'excommunication.
Comment, hein, comment ça trois... marche, père
Et donc, le prêtre, lui, il a deux obligations. Un, il doit préciser à... au pénitent ou à la pénitente, hein, que cette faute est liée à l'excommunication. Hein, et donc, normalement, il n'a pas cette, ce pouvoir. Que ça relève de l'épiscopat, de l'ordinaire. Premièrement, il doit le dire. Deuxièmement, parce que si la personne, surtout si la personne ne le savait pas.
Ça, c'est un papier que, les, que l'évêque Crépy fait circuler.
C'est ce que nous, chez nous, à Saint-Jean, ouais. C'est vrai, dès qu'il y a un truc comme ça, voilà, je vais te faire comme ça.
Ça ne doit pas être fréquent, parce que.
Oh bah, écoute,
parce
si.
Que là, là, en l'occurrence, qui vient se confesser, c'est une catholique. Et non, mais une catholique qui a avorté.
Tu connais la congrégation des frères de Saint-Jean, donc à Saint-Jean il y a des directoires, tout ça.
Ouais.
Donc quand il y a un truc comme ça, on dit voilà, on fait passer un truc mensuel. Donc pour ce qui concerne la confession, voilà, vous devez faire comme ça. Et vous devez donc préciser, hein, à la personne que c'est une faute qui est liée à l'excommunication. Il y a d'ailleurs il y a eu. Il y a eu une encyclique qui s'appelle Evangelium Vitae, où c'est les deux seules fois dans toute sa vie de pape que Jean-Paul II a engagé son infaillibilité. Il a engagé son infaillibilité sur le sacerdoce des femmes. Et sur ce point-là, à savoir, il a défini dogmatiquement, donc infailliblement jusqu'à la fin du monde, celui qui n'y croit plus n'est plus catholique, ça veut dire, que l'avortement, c'est la destruction d'une vie à partir de la conception et qu'il est objet il est lié à l'excommunication. Donc ça c'est le document. On n'a pas besoin de ressortir tous les documents, mais quand une directive est donnée par donc il y a un frère qui est chargé de ça. Je crois que c'est je sais plus qui c'est. Et donc il donne à tous les frères. Voilà, tu dois dire, un, premièrement, ce péché-là est une des fautes les plus graves. De, par exemple, il y a le fait de se consacrer à Satan et d'y persévérer jusqu'à la mort. Ça, c'est cette communication, ça.
Un franc-maçon, quoi.
Ben, le franc-maçon, la consécration à Satan. Alors, il y a l'appartenance à la franc-maçonnerie, et les gens en discutent, mais moi, effectivement, je pense en toute rigueur, d'après le droit canon, l'appartenance à la franc-maçonnerie rentre dans cette rubrique. Bon. Le fait de tuer le pape, un attentat contre le Saint-Père,
oui, ça, j'ai vu ça,
ça c'est excommunication, et puis l'avortement.
Enfin,
et puis il y a un quatrième.
C'est même ça, une violence contre le pape.
Ouais, un attentat contre le pape, ça suffit. Et le quatrième, c'est, il n'y en a que quatre. Et le quatrième, c'est l'absolution du prêtre à un péché de chair, à sa complice.
Une consécration d'un évêque aussi, sans autorisation.
Non, mais ça c'est ad libitum, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que ça se fait, le monseigneur le Saint-Père le veuve l'a fait, et du coup, après, il y a eu cette communication.
Ouais.
Mais c'est pas ipso facto, tu vois, c'est pas
ouais.
Une excommunication. La tessentiae, hein. Mais la tessentiae, c'est automatique, que tu sois au courant, pas au courant. Pof. Voilà, donc il n'y en a que quatre. Et donc appartenance à Satan jusqu'à la mort, voilà, l'avortement, l'absolution à donner de manière sacrilège à une complice, du péché de chair avec toi qui est l'absolu, qui est le vrai absolu.
Ouais.
Ouais, tu absoutes la nana avec qui tu as pu, voilà, tu absoutes ce péché-là qu'elle a fait avec toi. Ça, c'est l'excommunication.
Oh ben, il y en a des prêtres qui font ça.
Non, tu penses bien qu'ils vont pas lui donner l'absolution.
Va te faire absoudre chez le voisin.
Ah oui. Non, et donc la première chose que le prêtre doit dire, hein, avant de donner l'absolution, il doit informer que c'est objet d'excommunication, de censure ecclésiastique et d'interdit. Et du coup, Premièrement. Deuxièmement, sinon c'est illicite.
Bon,
deuxièmement, je dois dire aussi, au moment de la formule d'absolution, la formule, pas du tout la formule habituelle, il doit dire, la formule, et moi, en vertu du pouvoir qui m'a été conféré, je te pardonne tous tes péchés, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Ça, c'est la formule habituelle.
Naturelle.
Ego te absolvo. Et si c'est un avortement, il doit prononcer en plus les paroles suivantes. Ego te absolvo ab omnis peccatis tuis, ab omnis vinculis, interdicti, censuris et excommunicationis. In nomine Patris, Filii, Spiritus Sancti. Sinon, s'il ne donne pas l'absolution sur l'interdit, la censure et l'excommunication, ça ne sert à rien qu'il ait reçu la délégation pour l'absoudre.
Ouais.
Voilà.
Est-ce que c'est
aux évêques de dire à leurs prêtres, écoutez, voilà ce que ça veut dire. Vous êtes censé le savoir. Hein, on ne peut pas supplier à votre place. Mais en grosso modo, voilà, vous devez savoir ça. Vous devez faire ça de cette manière-là. Si vous ne le faites pas de cette manière-là, vous faites quelque chose qui n'est pas licite, ceci étant.
Vous avez lu le texte du peuple, qui vient de sortir, avant-hier. Moi, j'ai lu le passage concernant l'avortement. J'ai pas tout.
Oui, mais il ne change rien à ce qu'il
avait dit. Il ne change rien, mais dans le texte, il ne le précise pas. Il ne renvoie pas à ce que dit Jean-Paul II.
C'est sûr, il dit « on prolonge ». On prolonge ce que j'ai dit avant l'année sainte, pendant l'année sainte. Voilà. Mais on prolonge, il fait que ça, il dit on prolonge. Puis en même temps, c'est une très grande. C'est très bien. Parce qu'il en profite pour dire un sacrement est un sacrement. Hein. Alors les excommunications, s'il vous plaît, hein, des Saint-Pie-V et tout ça, stop quoi. Stop. Arrêtez. Si quelqu'un veut se confesser à un prêtre de Saint-Pie-X, eh bien, il se confesse à un prêtre de Saint-Pie-X, merde. Quand même. Faut pas déconner, non? Alors, surtout que, bon, on est en danger en ce moment.
Ah, vous avez la réaction du curé de Clermont, là? C'est pas Monseigneur. D'ailleurs, il doit en rêver de devenir Monseigneur Locher, Guy Locher, vicaire. Qui reste vicaire du nouveau. Ces prêtres-là peuvent aussi confesser. Et c'est d'un air dédaigneux, ces prêtres-là, en parlant des prêtres de Saint-Pie-X. C'était sur RCF. Mais c'est d'une façon dédaigneuse. Ces prêtres aussi, ces prêtres-là.
Non, mais ça y est toujours. Toutes ces affidés de tous ces affidés de loge sont toujours aussi haineux.
Vous, père, si vous avez une femme, je ne demande pas de me dire si vous en avez eu ou quoi que ce soit.
Si, tu peux me demander, c'est sûr.
De par sûrement.
Si j'ai eu une femme? Non, j'ai jamais eu une femme.
Non, mais une femme qui vient pour ce péché particulier de l'avortement.
Ah, mais ça m'est arrivé.
Mais des femmes chrétiennes, vous le faites en une confession ou vous lui demandez on va prier ensemble, on va faire comme maintenant, pour vous assurer qu'elle en a une vraie contrition parce que...
Oui, alors ça, c'est avant l'année de la miséricorde.
Parce que c'est quand même énorme, quoi. Et si elle arrive comme ça, la tête enfarinée, est-ce que vous pouvez me confesser et vous sentez qu'il n'y a pas une vraie contrition?
Alors, il y a eu plusieurs périodes sur la pratique de l'église pénitentielle. Celle qui était pratiquée jusqu'à Benoît XVI, c'est que si jamais une femme comme ça avait avorté, qu'elle était chrétienne, elle savait qu'elle était excommuniée, elle le savait.
Ouais, chrétienne, c'est pire, c'est circonstance aggravante en fait.
Non, c'est pas le fait d'être chrétienne qui est circonstance aggravante, c'est le fait qu'elle savait que c'était lié à l'interdit de l'excommunication. Elle le savait. Et elle a quand même avorté. Alors là, je suis obligé, jusqu'à Benoît XVI, de téléphoner à l'évêque du diocèse où je me trouve et où a lieu la confession. Quoi. Donc je lui dis, écoutez, revenez me voir demain. Je vais téléphoner à l'évêque pour qu'il me donne délégation. Voilà. Et Ça, c'était valable jusqu'à ce que Benoît XVI dise, bon, écoutez, jusqu'au temps de Benoît XVI, il a donné libéralité, possibilité à toutes les conférences épiscopales mondiales de donner délégation sans qu'il y ait coup de téléphone. Donc un évêque peut dire, voilà, je donne délégation à tous ceux qui sont, par exemple, curés. Alors moi, je ne suis pas curé. Ou bien alors, je donne délégation à tous les prêtres qui ont un pouvoir de célébrer, un célébrette sur mon diocèse. Tous, je leur donne ipso facto délégation, à condition qu'ils respectent les trois conditions que je vous ai dit tout à l'heure. Donc ça, c'est ce qui se produit bien avant qu'il ait donné sa démission, Benoît XVI.
Bon, et donc il n'y a rien de neuf avec Bergoglio, finalement. Il fait qu'entériner ces choses-là.
Oui, non, parce que ce n'est pas tous les évêques qui ont donné délégation à tous leurs prêtres.
Ah ouais.
D'accord. Voilà, donc ensuite, il y a eu... Il y a eu une période comme ça, effectivement, où, en France en tout cas, tous les évêques ont donné délégation à tous les prêtres qui ont installé les prêtres. Enfin, qui ont... Donc en France, ça n'a pas changé grand-chose, l'année de la miséricorde, ouais. De ce point de vue-là. Ça n'a pas changé. Et, par contre, ça a été l'occasion, le pape François, il le sait tout ça, donc ça a été l'occasion pour lui, attendez, c'est quand même de l'excommunication. Hein. Ne vous habituez pas à donner l'absolution, tac, 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 tac. Ça risque, l'absolution va être invalide et illicite si vous ne présentez pas ça comme avec une explication, comme une levée d'excommunication. C'est quand même pas pareil de construire une bagnole et de construire une usine. C'est pas la même chose. Donc si vous dites je vous construis une usine, très bien, c'est facile à comprendre, je veux dire ça. Donc il a relancé la machine en disant il faut quand même que les choses se soient dites. C'est l'excommunication. Et cette excommunication est levée. Et pour lever l'excommunication, bon ben voilà, il y a des règles. Il y a un rituel pour lever l'excommunication. Il y a un rituel. Voilà. C'est pas la même chose, c'est pas moi de célébrer l'office de vêpres, puis célébrer la messe. Bon.
Ouais. J'en reviens à ce qui m'a choqué, moi, c'est dans la communication et dans le texte.
Ah, mais ça, les médias, ça.
Mais non, mais le texte, le Figaro reprend le texte
le
exact.
Figaro.
Il reprend le texte exact. C'est lui qui est le plus honnête, hein, parce que c'est lui qui a quand même un passage sur la contrition.
Mais tu peux pas enlever le. Tu peux pas citer. Le haut de l'iceberg sans le rattacher à l'iceberg lui-même.
Ben, le problème, donc, c'est que sur cette affaire grave, moi, j'aurais été communicant du Vatican, j'aurais systématiquement fait une référence claire à l'iceberg tout entier. Parce que dans le texte, non.
C'est ce qu'il a fait à l'ouverture de l'année sainte. Hein, il a dit, évangile ouvité. Donc, donc ça veut dire. On ne va pas recommencer les cours du séminaire pour tous les prêtres du monde entier pendant 5 ans. Hein? Non. Non, ils sont censés savoir ce que c'est que la différence entre une absolution du péché, ce que c'est qu'une indulgence plénière, ce que c'est qu'un interdit, ce que c'est qu'une censure, ce que c'est qu'une excommunication. Ce n'est pas la même chose.
Alors voilà, mais une femme, elle a entendu ça avant-hier, elle est allée voir le texte, elle a lu le Figaro, elle a avorté, et ça fait 10 ans qu'elle...
Eh bien, elle va voir un prêtre,
ça fait 10 ans qu'elle angoisse,
voilà.
Et donc elle va dire, ah, mais c'est pas ce que j'avais lu dans le Figaro, c'est plus compliqué que ça.
Elle va voir le prêtre, par exemple, elle vient me voir, c'est passé il y a une semaine, elle vient me voir, personne, c'était encore hier, encore hier, pareil, tombée des nues.
Ouais, elle tombait juste sur le fait que ce ne soit pas si simple que ça, finalement.
Non, mais ça venait pas des trucs de ces dernières années. C'était le truc en général. Ouais. Elle tombait des nues.
C'était une chrétienne qui communiait, qui
se rendait pas compte. Oui, mais pas beaucoup. Très, très peu. À peine pratiquante.
Ouais.
Elle faisait jambes en l'air, c'est tout. Tu vois ce que je veux dire?
Bon,
moi j'ai dû lui faire le baratin, si tu veux. Non, je me suis rentré dedans. Hein. J'ai rentré dedans, mais je dis, mais attendez, là, c'est, qu'est-ce que c'est que tu... Vous vous rendez compte que vous n'avez pas de péché? Non, mais vous voulez rire, quoi. Et alors, vous voulez rire? Vous faites des beaux jambes en l'air avec des tas de mecs. Vous avez fait plus de vous avez pratiqué l'infanticide, le meurtre des enfants. Vous avez mis un stérilet. Comment vous savez? Vous avez été voir les sorciers, les médiums, etc. Mais comment vous savez? Mais il suffit de regarder vos yeux pour voir que vous êtes complètement métapsychisé. C'est quoi métapsychisé? C'est quoi
Qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'en va en plaquant la porte après?
Non,
ou elle se dit c'est la
non,
mairie?
Non, elle était très contente que pour une fois, quelqu'un lui dise ce qu'il en est. Elle dit, vous continuez comme ça. Vous continuez comme ça, vous savez où vous allez? Vous n'allez pas au ciel, hein? Vous continuez comme ça, vous n'allez pas au ciel. Donc les salauds qui ne vous le disent pas, eh bien, ils disent, allez ailleurs qu'au ciel, hein? Allez-y, là, allez-y. Alors voilà, donc voilà, très bien. Il dit, revenez, moi je vous donnerai, réfléchissez, et si vous êtes d'accord, vous ferez une confession, une communion, puis come back, c'est tout. Mais je lui ai expliqué, c'est une excommunication, c'est une excommunication, mais attention, ça se fait pas comme ça.
Du coup, un stérilet, c'est une excommunication aussi.
Ah oui? Ben oui, puisque ça n'empêche pas la fécondation.
Oui, on le sait pas. C'est une hypothèse, en
parce
fait.
Parce que si tu regardes les... Enfin, c'est pas une hypothèse. C'est pas du tout une hypothèse. C'est pas du tout
parce
une hypothèse.
Parce que le médecin lui dit que ça l'empêche. Ma sœur, qui est médecin, dit que ça empêche.
Non, mais
parce qu'il y a un spermicide, machin, blabla.
Mais, oui, ça l'empêche la plupart du temps. Bon, mais il faut vraiment méconnaître totalement les lois, j'allais dire, biologiques et organiques.
Il dit, les nouveaux, ils sont performants, blabla.
Non, mais spermicide à 800 milliards de fois, ça n'a rien à voir. Si le sperme rentre et a un contact avec le stérilet spermicide, il est effectivement dégagé. Et cela se produit si, effectivement, quand c'est le cas, c'est quand sur les 24 jours et 25 jours du cycle.
C'est ce qu'a dit ma sœur.
Mais simplement.
Elle vote Fillon. Pourquoi? Parce que Fillon est favorable à ne pas retoquer la loi Veil. Les prolongations de la loi Veil, 12 semaines, etc. Et on n'y touche pas. Et malgré le fait qu'ils se prétendent chrétiens, enfin bon, c'est pas trop quoi. Cela dit, ma sœur a dit je suis favorable à ça en tant que médecin, parce que moi, quand je vois des familles qui ont des gosses, je me dis que là, l'avortement, ça aurait été pas mal. Parce que c'est horrible, la vie de ses enfants, la vie de ses familles, c'est monstrueux. Enfin, elle est dans un truc sociaux, machin.
Oui, mais c'est
elle voit passer des familles, c'est des catastrophes, quoi.
Marxiste, freudien, existentialiste, c'est toute la connerie. Bon, c'est pas ça, moi, c'est pas ça.
On s'est engueulé sur la question. Hein.
Donc je reprends, si tu es jour sommet. Au jour sommet, il y a quatre phénomènes dans le corps de la femme. 1. L'ovulation est immédiate. L'ovulation, elle est là. Tant que ça tombe, à l'instant. Cette période-là dure environ 24 heures, quelquefois plus 40 heures. C'est l'ovulation. Tant que ça tombe, là. Deuxièmement, la femme produit des glaires cervicales liquides en quantité considérable à tel point que ça coule entre les cuisses. Moi, je ne suis pas marié, donc je n'ai pas pu constater à quoi ça ressemblait, d'accord? Bon. Pourtant, j'étais à 1000. Quand j'ai vu certains fiancés, etc., je leur ai dit, écoutez, merde, hein, je vais vous montrer, parce que vous êtes trop cons. Bon, alors, ça coule. D'ailleurs, tiens, t'as une femme ici, ça coule pas? Ça coule ou ça coule pas?
Oui.
Ah, vous êtes d'accord?
Oui.
Bon, et le médecin, il ne le sait pas, lui. Le médecin, il ne le sait pas. Bon, et quelles sont les propriétés des glaires cervicales par rapport au sperme? Immédiatement, enveloppement. Il est mis quand même dans un sous-marin, le spermatozoïde. Il est mis dans un sous-marin. Et il monte comme ça à travers l'utérus en moins de 45 secondes, en moins de 30 secondes. Pourquoi? Parce que c'est des sous-marins supersoniques, donc c'est-à-dire que aspirateur, et ça fait monter, il monte, vous, à la vitesse de l'éclair, Et évidemment que sur les 200 milliards de spermatozoïdes, il y en a évidemment au moins 10 milliards qui ne touchent pas le stérilet. Bon, maintenant, qui ne touchent pas le spermicide. Et ça va directement là-haut, dans l'ovule, ça pénètre. Il y en a un, en tout cas, qui pénètre. Et donc, à chaque fois qu'il y a un stérilet, quand c'est le jour d'ovulation, c'est systématiquement une ovulation. Donc ta sœur qui est médecin, c'est une salope, parce qu'elle le sait, c'est son métier.
Elle est spéciale, je l'aime beaucoup.
D'accord.
Mais bon,
tu lui diras de ma part, Père Nathan dit que tu es une salope.
Il faudrait que vous lui disiez en face.
Non, je dirais en face.
Et par contre, bon, on est d'accord.
Parce et si elle dit ça,
on a déjà parlé.
Et que si elle dit ça à ses patients, il faut qu'elle sache qu'elle est excommuniée. Toutes les personnes qui disent des choses fausses, qui encouragent le port du stérilet, sont excommuniées.
Bon, alors, mettons vrai, voilà. Moi, ce que je veux savoir, c'est le prêtre moyen, lambda, qui a...
C'est-à-dire moi.
Non.
Tu ne peux pas faire plus moyen lambda que moi.
Non, il y a plus moyen que vous, je peux vous assurer. Il y a plus lambda que vous. Et,
Alpha, alors, allez.
Le bon prêtre formé oui. Au séminaire de Clermont-Ferrand.
Ils sont pas si cons, hein.
Non, mais j'ai pas dit qu'il était con, j'ai dit que c'est le bon prêtre moyen, lambda, c'est un prêtre lambda au niveau de la formation, sauf s'il a fait des études personnelles en parallèle. J'imagine que la métaphysique, c'est la métaphysique selon le cardinal à la con qui a dit qu'il fallait arrêter parce qu'il n'y avait plus de questions aux métaphysiques.
Si c'est la métaphysique sur une borne, ben il n'est pas foutu le mec.
Voilà, alors c'est la métaphysique. Moi, au séminaire de Rennes, c'était la métaphysique Sean Bourne. Parce que le cours de philosophie, c'est pour ça que je m'étais fait virer au bout de la troisième semaine, parce que moi je venais quand même de Saint-Jean, donc j'avais appris à aimer un peu la question philosophique, et le père Jam, Monseigneur Jam, maintenant, il disait, ouais, non, mais la philosophie, on vous a mis un nul, en prof de philo, c'était le pire crasse philosophique qu'on pouvait imaginer, et c'était exprès, parce que la philosophie, il ne faut pas trop en faire, ça dessèche. Voilà. Je veux bien reconnaître qu'à l'excès, ça peut dessécher quand on voit certains frères. Bon. Mais ça dessèche et la question philosophique et métaphysique ne se posait pas. Et d'ailleurs, il y a peu beaucoup de questions qui se posaient. Mais cela dit, le prêtre moyen qui a une femme qui vient le voir et qui a... Je suis persuadé que dans les séminaires, on sensibilise au problème du stérilet. Et on écoute ce que dit la bonne médecine, qui dit que c'est très efficace, etc., etc. Et on écoute les gens comme ma sœur, qui sont des chrétiens de gauche, et qui vont vous raconter ça et vous dire qu'il n'y a aucun problème. Et que le père Nathan dit des conneries. Je suis désolé parce que c'est ce qu'elle dit. Hein.
Mais c'est pour ça. Hein.
C'est ce qu'elle dit. Alors, et c'est ce qu'elle dit à ses patients, et elle va à la messe, elle est chrétienne. Et
ben, elle a qu'à demander à des experts. Les experts, comme par exemple ceux qui font les associations.
Et ma sœur pourrait intervenir auprès de séminaristes pour leur expliquer que le stérilet, c'est nickel.
Eh ben, elle s'en renseigne si elle est un peu responsable de ses
actes. Et donc les séminaristes qui vont être...
Si elle a un minimum de dignité, elle se renseigne auprès des associations qui sont expertes en la matière. Hein, par exemple, Billings.
Si vous avez raconté à Brest, là, que j'étais à la messe, on s'est engueulé. Moi, j'ai quitté la table et j'étais sur le point de m'en aller. Parce qu'on sortait de la messe et la messe, c'est... déjà, c'est le diacre qui fait l'homélie, mais c'est un creux, quoi. Il aurait rien dit que ça serait pareil. C'est le genre de truc, tu sors, déjà, dès le début, tu retiens même pas un mot de ce qu'il dit, il dit rien. Enfin, il fait une espèce de... Il relie l'évangile, en fait.
Oui, c'est ça, oui.
Voilà.
C'est l'homélie style Jean-Pierre
Ensuite,
Pécard.
Ensuite, t'as 20 Pékin. Alors, l'église est archi-pleine. L'église de Gastel, elle est bondée. Hein. C'est énorme, c'est une très grande église, avec les nefs, transepts, machin. Il y en a partout du monde, des chaises partout. C'est blindé de monde. Et il y a 20 personnes, on leur colle une écharpe blanche pour donner la communion à la main, comme ça. Et je vous donne dans les mains, dans tes mains. Puis moi, il y avait ça, puis il y avait un autre truc. Je dis, bah, tout ça, c'est... moi, je commence à être sensibilisé à ces choses-là, à en comprendre l'importance. Et puis je lui dis,
c'est une croix qu'on rapporte, c'est très longtemps ça.
Personne, le prêtre ne se met pas à genoux pendant la consécration, personne ne se met à genoux, personne, parce que de toute façon c'est une église où on ne peut plus se mettre à genoux, il n'y a plus de prie-dieu, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'espace, il y a des chaises entassées. Et puis voilà, donc ça a démarré comme ça. Et je lui dis, le prêtre il a dit, et puis je pose sur une phrase. Et donc on se met à s'engueuler. Il y avait ma sœur médecin, qui était à Brest. Il y avait mon père. Puis, de toute façon, ce que tu dis, on s'en fout. Eh ben, puis, je m'en vais. Puis moi, je fais comme mon grand-père. Je claque la porte, je ouvre pas la porte dans la voiture. Je dis, viens, Edgar, on prend la route 1200 bornes. Enfin, 800 bornes. Oui, c'est ça. Presque 1000 bornes. Finalement, je suis revenu parce que ma mère ferait. Ma mère, c'est une sainte femme. Elle dit, non, reviens. Bon, ça se termine toujours comme ça, mais vous voyez, c'est des chrétiens de gauche, quoi. Oui. Alors, mon père, il est chevalier de Malte, c'est le bedeau de la paroisse, il a une profondeur quand même. Et puis, je pense que le bon Dieu, il aime bien mon père, il n'y a pas de problème. Et c'est un gars qui aime pas les questions, pas de questions. Mais ma sœur, c'est pas pareil. Enfin bon, ça pour vous dire que finalement, il n'y a rien de changé dans cette histoire.
Il y a beaucoup de choses changées. C'est que maintenant, c'est universel. C'est-à-dire tous les prêtres qui ont célébré. Qui ont pouvoir de confession, quoi.
Cela dit, non, mais dans le rituel, dans la formulation de
il doit formuler comme ça.
Il n'y a pas de changement. Non. Et je ne sais pas comment.
Mais ego, t'es absolvo, moi je te pardonne tes péchés, suffit pas. Voilà.
Suffit pas. Mais voilà, moi c'est dans les faits, dans la mesure où c'est quand même une excommunication, un truc énorme, quoi. Et on ne doit pas en voir tous les jours, quand même, de ces choses-là, des prêtres. Mais là, avec les annonces, avec le battage médiatique, il va y en avoir de plus en plus des femmes qui vont se dire « Bon, au fond, ça ne me coûte rien d'aller voir un prêtre, parce que je suis quand même un petit peu chrétienne, dans ma tradition, j'ai été baptisée. Pof, j'ai avorté deux fois, je ne me suis jamais vraiment posé la question. » Il y a un malaise, comme ces femmes-là, elles ne sont pas bien. Hein. On les voit, elles sont tarées. Hein. Moi, j'ai la belle-sœur de ma sœur médecin, elle est noire en plus, la pauvre. Mais elle a avorté et puis 6 mois après elle était enceinte et elle avait un gosse. C'est du délire, quoi. Avortement de confort, 6 mois après elle remettait le couvert et puis finalement allez, celui-là on va le laisser.
Non mais c'était là, c'est.
Mais ils sont pas chrétiens, ils sont. Enfin je veux dire, je sais même pas s'ils sont.
C'est vertigineux.
Ils sont pas baptisés, c'est pas. Les enfants sont pas baptisés, elle est pas baptisée. Le frère de mon beau-frère, donc puisque c'est la belle-sœur de ma sœur, donc c'est le frère de son mari qui s'est baptisé avant le mariage. D'ailleurs, mon beau-frère, mais il pratique plus, il s'est baptisé, mais il veut plus en entendre parler. Et c'est une famille de païens, quoi.
Charmant.
Ils sont tous la ouais. Ma sœur pratique en gauchiste.
Donc est-ce qu'on fasse plus ?
Je sais pas, je sais pas. Elle est médecin et elle se prend pour. Elle est très très fière d'elle, hein, très imbue de ses qualités. Je la prenais toujours à contre-pied, je la prenais toujours à rebrousse-poil quant à ses convictions de gauchiste, etc. J'ai décidé de changer de tactique depuis quelque temps et de trouver ce qui est bon en elle quand même, et puis bon, et de l'encourager dans sa quête d'un monde meilleur de gauchiste, etc. Bon, ça sert à rien de lui rentrer dans l'art parce qu'elle est tellement abuse de sa science de docteur en médecine, tellement fière d'elle, que ça sert strictement à rien. De toute façon, tout ce qui s'oppose à sa science, c'est, vous êtes des cons. Très franchement, hein, je lui en ai parlé de vos trucs et puis.
Ah ben.
Je lui ai pas dit.
Non.
Voilà. J'en ai parlé. Et non. c'est n'importe quoi. Voilà. Et telle position, c'est n'importe quoi, etc. etc. Et Fillon, donc on vote Fillon. Fillon. Moi, je suis allé au premier tour, hein, j'ai voté Poisson. Je ne sais pas si vous êtes allé. Vous êtes inscrit sur David.
Non, parce qu'il fallait signer une...
Ah oui, moi...
Il fallait signer un truc de loyauté aux valeurs de la République.
On en a parlé avec mon beau-frère et autres. On s'est dit que c'était un moindre mal. Et de toute façon, c'était deux listings. On ne s'apercevait pas qu'on signait la charte. On signait un listing tout bête, truc format électoral. Et on en signait un deuxième. Et on s'est dit que l'important, c'était de voter Poisson. Je pensais qu'il y aurait un vote chrétien, il n'y a pas eu de vote catholique. C'est hallucinant, hein. Il a fait un pour, même pas... Il a été balayé, néantisé, quoi.
Oui, parce que Fillon a bien joué, quelque part, parce que il a fait une demande de pardon pour tout ce qu'il avait fait contre les... Tout ce qu'il avait fait, il a demandé pardon pour tout ce qu'il avait fait sur les lois pour la vie. Et...
Enfin, cela dit, il va au Bilderberg.
Et puis même, carrément, il a quand même dit aussi, moi, je ne suis pas d'accord avec l'avortement, à titre personnel, puisque c'est ma foi. Oui. Donc, je crois que c'est le seul homme politique avec
Poisson
qui disait ça, quoi. Voilà, donc, c'est tout. Donc, quelque part, hein, c'est là-dessus qui, d'ailleurs, c'est là-dessus que son concurrent, là.
Mais tous les sites catholiques le défendent, hein. Tous sans exception. Vous allez le Salon Belge, Fillon, Saint-Fillon. Le mec, il est ultramondialiste, adoubé par le Bilderberg, pas une fois, deux fois, mais adoubé par le Bilderberg. Hein. C'est le truc le pire qui soit. C'est pire que le CFR, c'est pire que la trilatérale, c'est pire que tout. C'est eux, les maîtres du monde.
Oui.
Les 30 membres permanents du Bilderberg, ce sont les maîtres du monde. Il n'y a rien. Et le seul homme politique qui a refusé d'y aller, c'est Poutine. Ils sont tous vendus au Bilderberg.
Tout à fait.
Tous sans exception. Et Juppé, il était allé au cas où, l'année dernière. Là, c'est Fillon qui y retourne, parce que c'est évident que ça va être lui. Marine Le Pen n'y est pas allée, curieusement. Mais...
Oui, c'est des trucs, tu sais, moi... Non, j'ai pas voté parce qu'il fallait signer. Moi, je suis pas d'accord de signer un truc. Je suis tout à fait... comment est-ce qu'il s'est formulé?
Leur charte, je l'ai lue, elle est ignoble. Hein. Elle est ignoble, c'était pas admissible pour moi de signer ça. Mais je suis allé mettre 2 euros et j'y retournerai pas au deuxième tour parce que je m'en fous éperdument. Hein. Juppé, Fillon... Et les mecs, ils peuvent rien changer de toute façon, et on va renégocier l'Europe, on va refaire une nouvelle Europe. C'est une espèce de leitmotiv qui nous ressort comme ça, qui est impossible, puisqu'il faut qu'il y ait une unanimité à 28, qu'ils ne peuvent rien faire. Ils sont pieds et mains liés devant l'Europe. Ils sont économiquement, le plus ultralibéral, c'était même pas Sarkozy, c'était Fillon. C'est l'austérité puissance 12. On va en chier comme des Turcs. Il veut défendre soi-disant des petites entreprises. Il va augmenter la TVA, donc c'est moi qui vais ramasser. Moi, je gagne zéro en vendant mes bouquins. En plus, j'ai la TVA en plus. C'est bon, quoi. Je gagne zéro, quoi. Je bosse un an et demi, je gagne zéro. Bon, il va encore m'en rajouter une couche. Ils vont taxer les propriétés privées, les résidences principales encore plus. C'est Fillon, tout ça, c'est dans son programme. C'est le plus ultralibéral, c'est le plus vendu au capital de tous des 7. Et les mecs, ils votent pour lui, comme si de rien n'était.
Il n'y a qu'à voter Hollande.
Mais c'est pareil, c'est la même sauce, c'est le même. Zéro différence. Et aucune
tolérance zéro.
Aucune différence.
Il a déclaré la guerre quand même. Impressionnant quand même. Il a déclaré la guerre nord-sud. Hein. Pratiquement, c'est une déclaration de guerre qu'il a fait hier, avant-hier.
Qui, Hollande?
À Lyon. Non, Fillon. C'est une déclaration de guerre qu'il a fait.
Qu'est-ce qu'il a dit?
Le discours de Lyon. C'est là, ce pourquoi Pierre Brice Saint-Paul dit, mais c'est du Richelieu amélioré.
Qu'est-ce qu'il a dit?
Ben, il a dit beaucoup de choses, beaucoup, mais grosso modo qu'il en avait marre de voir que Poutine était tout seul à essayer d'aider les chrétiens en Orient.
Ah oui,
que c'était, ça suffisait avec ça. Il en avait marre que la France soit le petit...
Au moins, ça, c'est pas mal.
La petite brouette des États-Unis.
Ouais. Au moins, c'est pas mal. Mais au moins, c'est pas mal. De toute façon, il est obligé parce qu'il y a Trump maintenant. Donc, Trump va marcher avec Poutine. Il est bien obligé de pratiquer le revirement stratégique. Parce que si la France continue à s'entêter dans...
Il en a marre d'avoir... 30 fois plus de dépenses que les Anglais et 40 fois plus de dépenses que les Allemands pour les députés, les sénateurs, les machins, donc je supprime ça. Est-ce que j'ai besoin d'avoir 1000 députés ?
Sénateurs surtout.
Sénateurs, etc. Est-ce que j'ai besoin d'avoir tout ça ? Est-ce que ça coûte un pognon monstrueux puisque ça représente, je sais pas, du 60...
C'est le Sénat qu'il faut supprimer.
60 millions d'euros par an, quoi. Sans compter qu'ils sont payés à vie après, etc. Donc il veut... Arrêtez ça, je vois pas pourquoi on dépenserait 30 à 40 fois, 50 fois plus que les Allemands, nos francs-maçons nationaux. Parce que c'est ça, c'est des francs-maçons. Donc, quelque part, il veut faire des coupes...
Francs-maçons et juifs, pour beaucoup. C'est hallucinant. Médias et députés, ils sont juifs, ils sont doubles nationaux. C'est
plus bon, enfin, je sais pas, il déclare la guerre carrément... à l'islam. Hein, pas une seule fois, il dit les musulmans qui sont en France sont des Français. Pas une seule fois. Il parle des catholiques, hein, des protestants, des juifs. Et pas les musulmans, vous les musulmans, on va...
Mais ils ne sont pas français, il n'y a aucun français.
Vous devez avoir notre culture, vous devez avoir notre langage.
Ils sont marocains, ils sont double binationaux. Ouais. Mais les juifs aussi, hein, il y en a beaucoup qui sont binationaux. Ils font leur vous service avoir... en Israël et autres.
C'est une déclaration de guerre, carrément. Vis-à-vis de l'islam, tous azimuts. Voilà. Et donc, guerre contre le Qatar, contre l'Arabie Saoudite, contre, bien sûr, ouais. Tout ce qui est wahhabite, sassanide, etc. Voilà. Et donc, voilà. Donc, non, là, il a fait.
Vous avez écouté ce truc-là?
Oui, bien sûr, sinon je ne pourrais pas t'en parler parce que quand j'ai vu Pierre Brissapol, je me disais, mais j'entends des cris d'admiration inouïe.
Ouais, bon, admettons, mais faut.
Est-ce que. Je vais détruire, réécrire.
Il a quand même été Premier ministre, mec.
Je vais détruire et réécrire toutes les lois qui ont détruit la famille. Topira, mariage pour tous, on va les réécrire, on va restaurer la famille comme lieu de tendresse, lieu de vie, lieu de fidélité, etc. Et avec l'intégrité. Voilà. Et donc, et puis, qu'est-ce que c'est que cette histoire, hein? Et puis les enfants, on va maintenant leur donner une certaine éducation à être intègre, quoi. Pas être des pervers. Et, ouais, mais,
on peut lui faire confiance, vous pensez, vous?
Bah écoute, non, moi je te dis ce qu'il a dit.
Ah, mais qu'est-ce que vous en pensez ?
Je te dis que jamais...
En tant que conseiller spirituel de moi.
Jamais Chirac n'aurait fait un discours pareil.
Oui, mais après, les discours, on les a entendus, les discours...
Non, jamais Chirac n'aurait pu faire 1% de ce qu'il a dit. En positif. Jamais Chirac. Quand je dis Chirac, je prends tous les autres. Hein. Bruno Le Maire, je le connais. Puisque c'est un beau frère. Hein. Enfin, c'est un beau frère.
Mais est-ce que c'est pas du pur électoraliste qui s'aperçoit qu'il a été...
Bruno Le Maire, il serait catholique, pratiquant, si tu veux. Ouais. Mais jamais, jamais il aurait dit ça. Ouais. Bruno Le Maire, c'est un pervers. C'est un pervers. Bon, c'est-à-dire, lui, vraiment, c'est le gars qui s'aligne à 100%. Et puis, il ne va pas mouiller sa chemise. Hein.
Non, mais là, il s'aperçoit qu'il a l'électorat catholique derrière lui.
Pour aller dans le sens de Dieu.
Il essaye de fédérer avec...
Non, il n'a pas peur. C'est tout qu'il n'a pas peur.
Il n'a pas peur ?
Maintenant, il n'a plus peur. Il a dit ça. Fera.
Mais il va quand même au Bilderberg.
Oui, mais ça, je peux très bien aller au Bilderberg. Moi aussi, je peux y aller au Bilderberg.
Il va être enfermé, là, 3 jours. Il fait partie de la liste, là.
Ah, très bien, moi aussi, j'y vais, si tu veux. Alors là. J'y vais au Bilderberg, si tu veux.
colonnes qui vont tomber.
Bon, à propos de Pierre-Brice Saint-Paul, hier on a causé au téléphone, il me dit, on a discuté un peu, et il commence par me dire, j'ai rien compris. Donc, je suis désolé, j'ai pas rien compris, je suis choqué. C'est sûr, je comprends pas. Je comprends pas la technique de communication du Vatican. Je trouve qu'elle est, elle est pas claire. Et je fais partie des signataires virtuels de la, des cinq questions du cardinal Burke au pape, auxquelles le pape refuse de répondre concernant Maurice. Je co-signe parce que je trouve que c'est pas clair. Et je fais partie des gens qui ne comprennent pas l'audat aussi. Je ne comprends pas. Je l'ai lu. Je ne comprends pas. C'est sûr, je comprends pas. Là, on peut le dire. Je ne comprends pas la formulation. Je ne comprends pas la manière torve et tordue. Je ne comprends pas. Alors quand il arrive, il me dit « tu ne comprends pas », ça m'énerve, mais en même temps, c'est vrai. Je ne comprends pas.
Oui, mais je vais te dire. Parce qu'on est... Moi, je suis...
Je suis choqué.
Moi, je suis...
Ça s'accumule, en plus.
Quand tu es sur le terrain, c'est-à-dire que c'est toi le prêtre, tu n'es plus dans les livres, tu vois. Tu n'es plus dans les livres du séminaire, tu n'es plus dans les livres de théologie, tu n'es plus dans les livres des dicastères, des disciplines, des sacrements, etc. Tu es face à des gens.
Alors et... voilà, moi je suis un Jean et je viens vous dire que je suis choqué.
Non, écoute-moi bien, écoute-moi bien. Donc concernant les divorcés, etc., il y a des trucs aberrants, quoi. Parce que là, on a dit, voilà, l'Église un petit peu... pas soucieuse, tu veux, du salut des âmes, dit, comme ça, pof, voilà. Le téléscripteur, il dit, tu dis, voilà, tu es divorcé, tu es excommunié.
Ouais. Non, si tu revis en...
Non, tu es divorcé, ouais. Les divorcés n'ont pas le droit à la communion. Voilà. Donc les gens, 90%, je dis bien 90%, au moins, des gens disent, je suis divorcé, je n'ai plus le droit de communier. Alors, le gars, et sur ces 90%, on a au moins la moitié. C'est quelqu'un qui est parti avec une autre nana. La personne, elle se retrouve toute seule. Elle est... D'accord ?
C'est le cas de ma sœur qui se retrouve seule avec trois gosses.
Elle se retrouve seule avec trois gosses.
Qui n'a pas cherché.
Et puis, on est obligé de divorcer. Pourquoi ? Parce que on est obligé, avec les lois françaises, de faire la divorce par consentement au bout de 3 ans. Hein ? Tu ne peux pas refuser, tu n'as pas le droit de refuser. Donc, elle est divorcée. Donc, 50% de ces personnes-là pensent que, par le fait même que quelqu'un soit parti, qu'il est divorcé, ils n'ont plus le droit de communier. Je suis divorcé. Donc, ça veut dire que je n'ai pas fait tout ce qu'il fallait pour qu'il n'y ait pas le divorce civil. Voilà. Et ça, c'est faux. Tout le monde sait que c'est faux. Eh bien, ce n'est pas comme ça que le comprennent les gens. Les gens entendent, ils sont dans une ignorance. Quand tu vois les personnes qu'on a vues hier, c'est ça, le peuple.
Non, mais là, je suis d'accord.
Donc, je te donne un exemple.
Toutes les familles, sans exception, sont concernées.
Donc, tous les paragraphes de Maurice et Laetitia, c'est toutes les faussetés qui sont dans l'esprit des gens et qui sont faux. Et que le pape demande au prêtre de dire, vous n'avez pas le droit de laisser croire aux gens que s'il a été abandonné par quelqu'un et que le mec, eh bien, il a divorcé, du coup, vous n'avez plus le droit de communier. Vous n'avez pas le droit de ne pas leur dire. Ils ne sont pas excommuniés. OK ? Ouais. Voilà. Premièrement. Deuxièmement, il y a une multitude de trucs comme ça. Et moi, je le vois bien. Je le vois bien parce que il y en a tellement...
Ouais,
donc moi j'en ai vu passer des dizaines. Hein.
Ouais, vous verrez ma sœur, elle est abandonnée avec 3 gosses. Le gars il est psychopathe, il est parti avec une autre gonzesse.
Très bien.
Il exploite voilà, et elle est seule, mais voilà, ça pose quand même des questions.
Bon, alors du coup, bien sûr, vous êtes divorcé, ah c'est trop tard. Vous êtes divorcé, vous avez eu un enfant, donc déjà il y avait la fécondité. Quand vous êtes passé à l'église, bon bah. Hein, on ne peut pas dire hein, que vous êtes marié dans le but de divorcer. Hein. Donc voilà, on vous dit, vous divorcez, et bien vous ne pouvez pas vous remarier à l'église. Réponse, c'est faux. C'est faux. Et donc on a le droit, et il fait à Maurice Laetitia, dans le concret, dans le concret. Dans, moi, je peux te dire, tous les gens que j'ai vus se préparer au mariage, des choses comme ça, t'en as au moins les deux tiers, le mariage est invalide de plein droit. Hein. Ouais. Au moins. Donc, on n'enseigne pas assez qu'un mariage est sacramentellement invalide de plein droit dans de très nombreux cas.
Bon. C'est quoi invalide de plein droit? Parce que moi, je prends le cas de ma sœur direct. Hein, là, c'est la deuxième, pas la médecin. Et...
Si je fais un bateau avec du carton, avec du carton, au lieu de le faire avec du plastique imperméable, ça ressemble à un bateau, mais c'est pas un bateau. Voilà. Donc c'est du carton.
Je vous dis le cas. Elle s'est mariée avec un type.
Cool, c'est tout.
Elle s'est mariée avec un type enceinte.
Non, mais ça c'est autre chose.
Elle était. Parce tout le monde lui a dit.
La première catégorie.
Tout le monde lui a dit de pas se marier avec ce type.
Ouais, bon, c'est d'accord.
Et moi, je lui ai dit, ma mère lui a dit, tout le monde lui a dit, tu fais une connerie, tu fais, ouais, bla. Et non seulement je vais me marier avec lui, mais je veux, elle avait un gosse, hein, il y avait le petit gamin qui était au mariage de leurs parents, il avait un mois ou deux mois. Quoi. Non seulement elle s'est mariée avec lui, mais elle a voulu se marier en blanc, la totale, elle voulait aussi, il n'y avait pas de raison qu'elle n'ait pas un grand mariage comme sa sœur, blablabla, blablabla. Donc ils se sont mariés à l'église. Alors, ils ont eu trois gosses, lui, il l'exploitait, ça se voyait clairement, mais bon, ça tenait. Ils vivaient avec un père, ils étaient podologues tous les deux. Lui, c'était une espèce de macho qui refusait qu'elle bosse au cabinet parce que. Un enfoiré, quoi. Et qui piquait, il a piqué.
Non, mais pour qu'un mariage soit valide, il ne faut pas que ce soit deux saints. Hein. C'est souvent des tordus, des cassés. Et le mariage est quand même valide. C'est pas parce qu'un type est complètement con, salaud, dégueulasse, agressif, violent, que du coup le mariage est invalide. Alors, ça n'a strictement rien à voir.
J'arrive, je pose la question. Bon. Sur ses entrefaits, troisième gosse, lui se barre avec une autre gonzesse qui l'exploite pareil. Hein, il vit en Belgique, il vit sur le pognon de l'autre. Enfin, il lui a refait un gosse. Enfin, ça fait 4 ans maintenant qu'ils essayent de divorcer. Que lui, il emmerde en plus ma sœur. Il y avait le jugement définitif, il fait appel, il refait appel. Ça fait, là, il va en cassation. Alors que.
Non, mais ça, on s'en fout.
Et alors
c'est des trucs de République, ça.
Non, ce que je veux savoir, c'est. Elle tente de faire annuler son mariage. Elle dit que c'est en bonne voie. Après, maintenant, ça se passe auprès de l'évêque à Quimper.
Oui.
C'est ça?
Oui.
Et dans quelle mesure ça peut être annulé?
C'est quand même frais. On sait qui est le type. C'est pas très difficile de savoir que le type est un déséquilibré mental, que son intention c'était pas de se marier avec un esprit de fidélité et d'indissolubilité. C'était pas du tout son intention numéro un.
Ouais.
Voilà, que tout le monde peut en témoigner.
Ouais.
Voilà. Donc le mariage est invalide de plein droit. L'évêque, il statue. Au lieu que ça dure 5 ans avec des procès, des machins, des trucs, des témoignages et machin, l'affaire est réglée en 2 mois, c'est tout. Et puis au lieu que ça coûte 15 000 euros, merci pour les gens qui ne peuvent pas payer. Voilà, donc Amaurice Laetitia dit, vous êtes prié quand même, c'est quand même pas très difficile. Allez voir l'évêque, il désigne 4 prêtres un peu sérieux dans son diocèse.
Sauf qu'il peut pas le faire tant que c'est pas le divorce n'est pas prononcé de manière officielle.
Si.
Ouais.
Bien sûr que si.
Il peut le faire quand même.
Ça n'a rien à voir, la République et le sacrement. Rien, rien, rien.
Bon, donc c'est légitime pour ma sœur de dire après.
C'est ce que le pape dit. Ouais. C'est complètement absurde, c'est dégueulasse. Ouais. C'est dégueulasse de faire croire à quelqu'un qu'il est lié par un sacrement alors qu'il ne l'est pas.
D'accord.
C'est dégueulasse. Et donc le système actuel, on se trouve face quand même à une déchéance. Hein, une déchéance. L'intégrité morale n'existe plus. C'est un phénomène de société, comme a dit Fillon hier. Donc la morale n'existe plus. Donc c'est une traînée de boue, de pourriture, de perversion sexuelle, machin, de tout ce que tu veux, et qui fait que les gens ils se marient avec ça. Est-ce que le mariage est valide? Non, le mariage n'est pas valide. Donc, bien sûr que non. Si le gars, il n'a pas l'intention, ou la fille, hein, ils ont dit, bon, si jamais je tombe vraiment mais complètement dingue, amoureuse d'un mec, je me permettrai quand même une petite glissade. Hein. Bon, si c'est ça, si elle a ça dans la tête, le mariage est invalide de plein droit. Bon, il y a combien de gens qui se marient en disant, moi, surtout s'ils sont de gauche, hein, combien, vous, quand vous êtes marié, vous aviez l'intention d'être fidèle, indissoluble jusqu'à la mort, quoi qu'il arrive, aucune infidélité, quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive.
Ah bah moi c'est mon cas.
Mais toi c'est pas pareil, tu sors d'un monastère.
Moi c'est mon cas absolu. Quoi.
Toi tu pars dans un monastère.
Bah, vous aussi j'espère.
Mais non, elle sort pas d'un monastère.
Enfin je sais pas, enfin j'en sais, je connais pas votre vie, mais...
Non.
La nénette aussi c'était évident.
Moi je savais même pas que ça faisait partie du...
Elle se marie, elle s'est mariée elle, ouais. En disant bah, si je divorce, je divorce, puis c'est tout. Ouais. Donc elle a divorcé, elle dit c'est normal, je divorce. Ça faisait partie, ça fait partie de la société. Si il faut divorcer, je divorcerai.
Non, mais le fait,
donc si elle pense le jour du mariage à l'église, s'il faut divorcer, je divorcerai, le mariage est invalide.
Moi c'est pas le fait de sortir d'un monastère, parce que ça change rien entre nous. Hein.
Non, mais tu es au courant quand même, la différence d'un sacrement, la matière et la forme d'un sacrement. Tandis que
moi,
les gens qui sont
pas.
Je
ne suis pas marié à la légère, quoi. C'était.
Évidemment. Donc là, deuxièmement.
Là quand même, ça existe.
À Maurice Laetitia, le pape, il dit vous ne pouvez
des
pas.
Des occasions, j'en ai eu, hein, de faire. Des
mais
conneries.
Il ne peut pas donner des règles absolues. Il dit vous êtes.
Qui peur.
Le pape, il ne peut pas donner à Maurice Laetitia des règles absolues. Puisque c'est. Tu comprends comme c'est hyper délicat, puisqu'il faut avoir le témoignage. Hein. Scientifique, si je puis dire, de l'intention de la personne au moment où elle se marie. Donc tu ne peux pas faire des règles absolues. Tu peux dire, voilà, l'évêque, il peut discerner quand même. Et il peut discerner 3 à 4 prêtres costauds qui savent ce que c'est que la glaire cervicale, par exemple. Hein. Qu'une nana, c'est pas un mec, par exemple.
Mais dans le fait même d'être parti avec
et que
femme,
ces prêtres-là, ils vont recevoir les gens du diocèse pour faire discerner s'ils sont liés, oui ou non, par un sacrement. Bon, ça marchait pas avant. Il fallait casquer 10 000 euros.
Ouais,
il fallait faire 2 trucs. Il fallait réduire 5 ans. Il fallait faire des enquêtes hyper serrées, tu vois. Bon, comment dire, impossible, je veux dire, humiliante et tout ça. Bon, et voilà, parce qu'il y a le défenseur du lien aussi. Bon. Voilà, et donc il dit, c'est pas possible, moi je vais dans des favelas, je vois, et évidemment, quand on marie une petite nana, elle a 14 ans, le mariage n'est pas valide, merde, c'est tout, donc on va arrêter, et on va lui faire payer 10 000 euros la nana. Non mais alors, il dit, attends, faut quand même avoir un minimum, je sais pas, tu vois Jésus, attends, à bout de 10 000 euros d'abord, puis on va voir si tu es ton... Alors que c'est évident. N'importe quel prêtre, n'importe quel... Non, psychologue, on s'en fout des psychologues, justement. Voilà, donc deuxièmement, ça c'est le deuxièmement. Troisièmement, et à Maurice Laetitia, au parcours, j'allais dire, tous ces trucs aberrants. Mais aberrants. Et heureusement qu'il l'a fait. Mais ça n'enlève strictement rien au principe, puisqu'il fait au contraire définir ce qui est valide, ce qui n'est pas valide, ce qui est sacramentel, dogmatiquement. Est-ce qu'il ne l'est pas? Donc, le fait qu'il l'ait fait, il bouscule bien sûr une institution maçonnico, machin truc, qui veut que les gens n'aillent plus à l'église. C'est tout. Et ça, c'est le Vatican. Plus il y a des gens qui ne peuvent plus aller à l'église, surtout les pauvres, mieux c'est. Et lui, il veut les foutre en l'air. Les Schönborn, les Burke, les machins. Il veut les foutre en l'air. Parce que eux, ils veulent faire le schisme. Pourquoi? Parce que c'est l'organisation interne du Vatican, de la franc-maçonnerie ecclésiastique, pédocriminelle, tout ça. C'est eux qui dirigent tout depuis Bunini, Vio et tout. Jamais personne n'a repris du terrain. Jamais. Aucun pape n'a repris du terrain à l'intérieur du Vatican. Jamais. Donc, quand même, le pape Benoît, il a dit, moi, je peux pas, désolé, voilà, et ils ont trouvé ce système, Saint-Esprit a trouvé ce système, et lui, ben, il habite dans une chambre, voilà, pas plus grande que celle-là, pendant que les cardinaux, eux, ils ont des palaces de 400 mètres carrés, équivalent à Matignon, équivalent à Champs-Élysées, comment tu appelles ça? Alors là, oui,
et il dit... Je peux vous en piquer une?
Bien sûr, c'est fait pour ça. Et il dispose de tout. C'est là.
On va, est-ce que vous accepteriez que je revienne avec ma caméra? On va flouter. et que vous remettez un peu tout ça, parce que moi je suis choqué, donc je viens vous voir pour plus être choqué. Je suis le chrétien de base, voilà. Donc que vous remettiez ça d'aplomb, que vous fassiez une explication, vous me redites tout ça par rapport à Maurice et Laetitia devant une caméra. Je reviens avec ma caméra, d'accord.
Et vous, tu peux pas savoir les gens comme ils sont, c'est dégueulasse si tu veux, c'est dégueulasse ce qu'on leur fait.
Vous allez parler à ma sœur face caméra. Et vous êtes d'accord?
Ouais.
Bon, et quand est-ce qu'on fait ça? Lundi?
Quand tu veux.
Lundi, on va faire ça. Si vous avez le temps, donc il faut que vous n'ayez pas trop de monde, faut pas que.
Bah même s'il y a du monde, ça fait du public.
Hein. On prend une heure et vous me préparez un truc bien comme ça, énervé.
Et lui, il n'a pas à rendre compte à ces espèces de salopards qui veulent faire un schisme, parce que c'est leur. C'est leur gagne-pain.
Oui.
C'est comment dire, c'est avec ça qu'ils sont millionnaires.
Vous croyez qu'ils sont millionnaires?
Tu plaisantes ou quoi?
Moi, je n'ai pas d'idée parce que je suis tellement pauvre que je ne peux pas m'imaginer. ça me dépasse. Donc.
Ils ont le pouvoir. Ils ont le pouvoir.
Oui, ils ont le pouvoir. Oui.
Et donc, ils ont le pouvoir. C'est eux qui décident de tout. Donc, pour que. Mais les gens qui ne sont pas francs-maçons. Et qu'on passe ce pouvoir Bunini, machin truc, etc.
Vous mettez Burke dans le tas aussi et...
Non, mais lui, il n'est pas franc-maçon. Mais ouais. Ils ne sont pas. Mais c'est des gens Schönborn. Schönborn, Burke.
Schönborn.
C'est des gens qui. C'est leur. Ils ont besoin du Vatican pour exercer leur pouvoir, pour exercer leur autorité, pour exercer leur influence, pour exercer leur. Ils en ont besoin, finalement. Ils disent, ça fait rien. Qu'ils soient francs-maçons, qu'est-ce que ça peut foutre? Si c'est des homosexuels, s'il y a trois ailes entières du Vatican qui sont réservées à ces trucs de jambes en l'air entre cardinaux homosexuels et leurs séminaristes, qu'est-ce que ça peut foutre, hein? Qu'est-ce que ça peut foutre? On s'en fout du moment que ça marche. Alors du coup, regarde. Ce serait si facile de rendre valides, par exemple, les ordinations d'évêques. Les ordinations de prêtres, qui sont quand même sacrément. C'est coup de cimet, hein. C'est vrai, c'est un coup de scalpel, hein, de l'ordination des évêques. Pourquoi est-ce que depuis Jean-Paul II, Jean-Paul Ier, déjà, pourquoi est-ce que depuis Jean-Paul Ier, impossible. On ne peut pas faire une petite note bas de page sur la préface.
Pour dire quoi? Pour dire la formule d'ordination?
On appelle ça une nota previa. Voilà. Le pontife suprême considère que Rome, la préface doit être comprise dans le sens de l'Église. Et le sens de l'Église, c'est voilà, ad distribuendos monera, c'est la distribution hiérarchique, évêque, prêtre. Et monera, c'est les trois monos, les trois charges sacramentelles propres à l'évêque. Et ça ne veut pas dire, comme les traductions anglaises, françaises et allemandes, la distribution des charges.
Bon, vous l'avez lu, Laudato Si, j'imagine.
Oui, mais moi, ça m'intéresse par ça, parce que. Oui, je l'ai lu, mais.
C'est quand même du chardinisme à bloc, quoi.
Mais.
C'est nous allons. C'est déjà, il reprend.
Il y a eu un champ, il y a eu un virage qui a été pris. C'est parce que tu sais pas comment ça s'est passé. Il y a un virage qui a été pris avec Jean-Paul Ier. Il a été assassiné.
Ouais. Oui, bah c'est pas le premier en même temps.
Si. Si, il a été assassiné par des cardinaux.
Ouais.
Bon. Donc Jean-Paul II est arrivé.
Et on connaît même le nom de l'assassin. Ouais.
Et j'en sais quelque chose, hein. C'est quelque chose, parce que moi, justement, je n'ai jamais travaillé avec Jean-Paul Ier, mais avec Jean-Paul II, oui. Donc, il y a des choses que je sais. Donc, il est obligé de faire sans arrêt des contours. Donc, il doit dire quelque chose, et bien, il fait le contour de tous les dicastères, contour de ce dicastère, contour de ce dicastère, Voilà. Voilà. Et donc, c'est un encyclique qui va donner quatre pages. Un pour contourner ce dicaster, un pour contourner ce dicaster. Et c'est pour ça qu'il est obligé d'employer pour la première fois un pape dans ses encycliques va utiliser un langage phénoménologique. Il ne sait rien. Pourquoi ? Parce que dans le langage du Cyrien, on raconte ce qui est périphérique. Allez, c'est périphérique. On s'engage pas, c'est périphérique. Donc, hop, un deuxième élément, pop, périphérique. Et puis d'un seul coup, au milieu de ce baratin, c'est du pur baratin, c'est pour noyer le poisson. Pof, il fait monter à la surface. Paf, on est au niveau de la mer. Paf, le truc, maintient, avortement, excommunication, c'est dès la conception qu'il y a un avortement. Voilà. Infaillible. Paf, critère oblique. C'est le système avec des guerriers, c'est la manière husserlienne, c'est la manière phénoménologique de présenter les choses. Donc, il y a eu un tournant, si on veut échapper quelque part au pouvoir médiatique de la prostituée, la grande prostituée qui chevauche la bête avec coupe de chicoutim dans la main gauche, c'est précisément dans les textes, on fait du brouillamini en périphérie, du brouillamini en février, du brouillamini en février, et puis en fait, au total, on fait avancer le schmilblick sur les éléments qu'on veut faire avancer, sur lesquels on veut faire avancer la chose, parce que c'est quand même une abomination que de laisser les gens comme ça aller en enfer. Je veux dire, c'est en disant l'Église c'est une salope, l'Église est injuste, l'Église c'est pas ce qu'elle dit, enfin on le sent, de toute façon même les gens, s'ils savent pas tout ce que je viens de dire, ils sentent bien que c'est dégueulasse. Ils sentent bien que c'est pas vrai, quoi. Ils sentent bien que c'est pas vrai. Donc Jésus, c'est la vérité quand même. Donc à un moment donné, lui, il va dans les favelas, il va dans les machins, il va dans les trucs. Il a fait ça toute sa vie. Je veux dire, tu vois ce que je veux dire. À partir de ce moment-là, il sait à quoi ressemble le peuple de Dieu, quoi, le peuple des chrétiens.
Je reviens avec ma caméra lundi, qu'on clarifie, parce que c'est moi je suis troublé, je suis pas le seul. Ma mère est troublée, ma mère c'est une sainte femme, une vraie sainte femme, vous voyez, et elle n'est pas la seule. Plus personne n'y comprend rien, parce qu'on n'est pas dans le dessous des cartes du Vatican.
Oh,
on est des pauvres cathos qui essayons d'avoir une messe valide, ce qui n'est pas facile. C'est vrai, hein. Tout ce que je suis capable de faire comme pauvre cathos, c'est de dire mon petit chapelet avec 2 dizaines de plus quand je peux pour rattraper les jours où je n'ai pas dit. Vous voyez, sans même rentrer dans les mystères ni rien, mais tout ça pour m'imprégner de la Vierge Marie, et puis ça m'apaise ma colère. Maintenant, j'ai décidé de plus parler, je dois téléphoner à mon éditeur, mais je ne le ferai pas avant d'avoir dit de chapelet. Parce que ça m'apaise. Donc, c'est tout ce que je suis capable de faire comme chrétien. Et quand j'entends des conneries médiatiques qui sont provoquées par une communication qui m'apparaît comme molle et aberrante, sur l'avortement, qui semble. Moi, l'effet que ça me fait comme pauvre chrétien, je me dis, je suis qu'un pécheur, finalement, moi, je peux commettre n'importe quel péché.
Eh ben non, c'est un détournement de la vérité.
Je peux commettre n'importe quel péché.
C'est leur métier, c'est de détourner la vérité.
Oui, mais la communication, je vais voir la source, comme je suis pas idiot, donc je vais voir quel est le texte. Je regarde le texte, je dis, en effet, c'est vrai que c'est un peu.
C'est mou, je viens de te donner 3 exemples. Moïse les chrétiens, c'est pas si mou que ça, c'est dire attends, les prêtres, s'il vous plaît, dites pas allez hop, on coupe, m'en fous, j'ai pas le temps, pof, tu es divorcé, c'est terminé. Arrête de faire ça, espèce de salopard de prêtre.
D'accord.
Donc tu es prié.
Ça il faut clarifier parce que on a besoin. Donc je reviens avec ma caméra. Voilà. On a besoin parce que nous, on est perdus. Et ma sœur qui est divorcée, elle a posé son dossier pour faire annuler, mais ça fait 3 ans, et puis elle n'est toujours pas annulée son mariage, et c'est l'évêque, il n'a toujours pas annulé le mariage. Bon, et elle n'est toujours pas divorcée parce que l'autre enfoiré, et il fait appel sans arrêt, et ça peut-être, c'est peut-être pas pareil, il n'y a peut-être rien à voir, mais dans l'esprit de la personne qui
divorce... Elle n'est pas divorcée, ou bien elle est liée par un sacrement de mariage. Et alors effectivement, si elle se remarie avec quelqu'un d'autre, elle est divorcée. Ou bien elle n'est pas liée par un sacrement, à raison de quoi elle n'est pas divorcée puisqu'il n'y avait pas de sacrement.
Bon. maman, elle ne s'est pas encore tranchée.
Donc pour l'instant, elle n'est pas divorcée, puisqu'elle n'est pas mariée à quelqu'un d'autre, premièrement. Et deuxièmement, si jamais le mariage est invalide de plein droit, eh bien, par définition, elle n'est pas divorcée, puisqu'il n'y avait pas de sacrement.
Ouais. Bon.
Elle n'a jamais été mariée, donc elle ne peut pas être divorcée.
Cela dit, voilà, elle est à Pigny-Saint-Jacques, et puisqu'elle est allée à Compostelle, elle a fait son truc en 3 ans. Courageuse. Et sa dernière étape, elle a rencontré un mec de 47 ans. Je ne l'ai pas vu, elle ne m'a pas dit, je le sais par la bande. Elle a rencontré un mec qui finissait Saint-Jacques aussi, un Italien. Elle fait dans l'exotisme parce que le premier était portugais. Donc, soi-disant, l'Italien, il a une grande foi et tout. Donc, à Noël, elle m'a dit qu'elle ne pourrait pas venir à Noël avec nous parce que c'était trop gnagnin, trop gnagnin. Mais je sais qu'elle va aller en Italie voir le nouveau mec. Pourvu qu'au moins elle le prenne riche, pour éviter d'être... Enfin bon, mais elle est... c'est une fille qui a de la foi, elle a écouté les 20 vidéos, 21,
elle est... C'est tout à son honneur.
Elle est martyrisée par ce qu'elle vit, hein. c'est hyper dur ce qu'elle vit, le mec qui s'est barré...
T'as vu que Verioui a mis 3 nouvelles vidéos là sur la... Verioui.
C'est qui ?
A mis 3 nouvelles vidéos...
Où ça ?
Sur Internet, sur YouTube.
Non, mais sur quel site ? Sur quelle chaîne ?
Ben...
Je sais pas, ça...
Nonné.com.
Part 1, part 1, part 2, part 3.
Des vidéos...
Non, mais le compte, c'est Nonné.
Nonné.
Je ne savais pas que ce compte faisait des vidéos. Je vais aller voir.
Là, il y a des trucs.
C'est des vidéos qui traitent d'eux.
Ben, ça traite de nos sujets, hein. C'est du puissance.
Je vais être obligé de les uploader parce que je voudrais que tout soit regroupé dans les entretiens du Père Nathan.
Oui.
Que les choses soient claires.
Oui.
Parce que les gens, s'ils ont du Père Nathan.
À droite et à gauche, oui.
Voilà.
Oui, sur les enfants, les avortements, justement, les stérilés. Ouais. Les comment est-ce qu'on fait après pour rattraper ? C'est bien gentil de dire ça, c'est une faute, c'est pas bien. Mais.
C'est des vidéos de vous ?
À tout péché miséricorde. Bon, à tout péché miséricorde.
Noël
4 2015.
Ouais. Et on va encore se faire taper sur les doigts, mais je m'en fous finalement.
Non. Noël 2015, moi je lui ai dit à Alexis, je lui ai dit. Pas de problème, dès lors que c'est des trucs...
Alors, pour les mettre sur ma chaîne, soit il me file le fichier... Enfin, pas ma chaîne, c'est pas ma chaîne.
Non, hein, tu peux télécharger.
C'est votre chaîne. Oui, mais il faut que je les télécharge, que je refasse moi-même le montage et que je les remette en format YouTube. C'est le bordel, ça me prend les plombes.
Mais c'est déjà sur YouTube.
Non, mais pour les mettre... pour qu'elles soient sur la chaîne les entretiens du Père Nathan, je suis obligé de les télécharger.
Oui, c'est ça.
Oui. Après les avoir téléchargés, je peux pas les réinjecter parce que c'est un
change de titre, c'est tout.
Je peux pas les réinjecter directement sur ma chaîne. Je suis obligé de reformater la vidéo et après je suis obligé de citer la source, etc. Mais peu importe. Mais c'est pour ça qu'il faut que je sois en lien avec le mec. Je lui en parle. S'il m'envoie directement le fichier, c'est plus simple.
Je l'ai fait, moi, si tu veux, sur mon disque dur.
J'ai pu
les télécharger, pas sur...
Oui, on peut te les donner, hein.
Si je dois les télécharger, je te télécharge, c'est pas le problème. Mais...
On peut te les donner, on les a.
Après, il faut que je refasse un montage Parce que j'ai essayé toutes les formules. Là, j'ai mis la petite passage où vous parlez du sacrement pour les divorcés mariés. Je l'ai remis sur la... C'est ce que mettait une petite séquence de Pierre Aubry. Hein. Et je l'ai mis sur les entretiens du Père Nathan. Et voilà, il a fallu que je fasse toutes ces micmacs.
Ça fait partie de ces vidéos-là, justement. C'est un petit extrait des vidéos.
Mais ça fait partie de cette série. Voilà. C'était Noël 2015.
Voilà. Donc j'ai pris l'extrait, je l'ai trouvé intéressant parce qu'il n'est pas très long. Et...
Ouais. Oui, on peut faire de la découpe, c'est sûr. Ouais. D'ailleurs, c'est de la découpe, puisque.
Et puis j'étais en train, j'ai fait que 2, mais comme je suis parti à Paris, j'ai pas eu le temps d'aller plus loin. Je vais faire 3-4 là, tout beau. Ça dure 1 heure à chaque fois. Je mets quelques photos, vous avez vu, hein, sur l'Apocalypse.
C'est bien ça.
Ma mère est.
J'ai des retours, hein, les gens disent c'est super l'Apocalypse. Hein.
Ma mère, elle a pas aimé. Je me suis endormi.
Oui. Ça, je comprends, c'est plus marrant de voir la gueule du monstre.
J'ai mis quelques photos qui défilent comme ça, parce qu'on peut juste se contenter d'être allongé, de les écouter avec un casque. Mais Bon, au moins, c'est en format YouTube, donc les gens, déjà, ils peuvent arrêter en cours, reprendre où ils ont arrêté. C'est plus pratique que ce que c'était avant. Ouais. Avant, c'était... Bon, par contre, avant d'arriver à la... Il y en a 20 et quelques, là.
Eh ben oui.
Ça va me prendre des plombes. Bon, ouais, c'est bon, ça sert d'eau, ça.